Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine.
Elles ont beau couvrir un tiers de notre territoire, les forêts françaises sont en proie aujourd'hui à un dépérissement inquiétant. Le dérèglement climatique menace leur avenir et soulève de nombreuses incertitudes. Alors comment s'adapter pour enrayer cette crise sanitaire ? Les 21 et 22 mars prochains, l'Institut de France, le Château de Chantilly et l'Académie des sciences organisent un colloque consacré aux forêts de demain. Des chercheurs, des experts et des acteurs de terrain vont unir leurs connaissances pour penser leur préservation. Et parmi eux, il y aura vous, des ICOPO, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur forestière de formation et vous dirigez aujourd'hui le domaine forestier et immobilier du château de Chantilly. Et vous, vous constatez jour après jour les effets du réchauffement climatique sur cette forêt de Chantilly qui fait plus de 6000 hectares répartis entre l'Oise et le Val d'Oise. Peut-être d'abord un mot sur les spécificités de Chantilly par rapport aux autres forêts françaises. Ce n'est pas la plus grande forêt, mais elle dispose d'un patrimoine riche. Elle a plus de 1000 ans.
Oui, dans sa partie centrale, plus particulièrement dans le prolongement du château, effectivement, on a des archives qui remontent à plus de 800 ans au château. Donc c'est une forêt assez ancienne, effectivement. Elle a été constituée au fil du temps, principalement par les princes de Condé. Et puis après la Révolution, le dernier prince des Condés a stabilisé son contour actuel et le duc d'Aumale a poursuivi son œuvre. Voilà.
Quand je disais qu'elle faisait plus de 6000 hectares, par rapport aux autres forêts françaises, comment elles se...
Eh ben, c'est quand même une bonne petite surface. Non, des domaines forestiers d'un seul tenant, aussi proche en plus d'une grande ville comme Paris, non, c'est quand même un cas très particulier. Et puis ce n'est pas une forêt domaniale.
C'est-à-dire
ça n'appartient pas à l'État, ça appartient donc à l'Institut de France. Et ça, c'est quand même un statut très particulier. Ça reste pour autant une forêt qui est ouverte au public et qui vit les mêmes évolutions, y compris sociétales, au niveau des attentes des populations, que les grandes forêts domaniales.
Alors vous, quand vous avez pris ce poste de direction du domaine forestier, vous êtes arrivé avec... Le mot est peut-être un peu fort, cette angoisse, en tout cas une inquiétude viscérale de voir petit à petit disparaître la forêt de Chantilly. Quels indices, quelles observations récoltées permettaient de dire que cette forêt était en mauvaise santé ?
Alors, le premier phénomène qui nous a inquiétés dès 2015, où on a commencé à avoir des vagues de sécheresse, c'est que les méthodes pour transformer la forêt, on avait déjà un petit peu anticipé le réchauffement climatique et on savait que les espèces en présence, en particulier le chêne pédonculé, n'étaient pas adaptées aux évolutions, en tout cas aux tendances climatiques annoncées dans les 80 ans. Donc ça faisait déjà un peu plus de 30 ans que les forestiers essayaient de transformer cette forêt. Il a transformé de manière un petit peu aujourd'hui perçue brutale, mais pourtant c'était comme ça que l'on faisait, il n'y avait pas de mauvaise volonté. Eh bien, on coupait d'un seul tenant sur 7, 10 hectares, on broyait et on plantait en ligne, de sorte à faciliter ensuite le travail des entreprises forestières, à la fois dans les travaux et aussi dans la récolte des arbres. On était dans une espèce de standardisation.
C'est ce qu'on appelle les coupes rases.
Exactement. Et on crée une futaie régulière. Et en grandissant, en fait, ça fait ces futaies cathédrales très caractéristiques que l'on connaît en forêt de Retz ou de Compiègne.
Il y avait un diagnostic qui a été publié il y a quelques années qui révélait qu'un tiers des chênes, un tiers, ça correspond à 50 000 gros arbres,
c'est
qui étaient menacés de disparition. Le chiffre est énorme.
Totalement. Donc, c'est vrai que là où ça nous a inquiétés, c'est que ces méthodes de coupe rase plantation, avant, ça marchait. Et là, on voyait qu'on avait beau remettre des plants une fois, deux fois, trois fois, ça ne fonctionnait plus.
Et alors pourquoi ? Comment vous l'expliquez ?
Eh bien, des vents desséchants, des sécheresses, et puis quelque chose que l'on a découvert un peu plus tard, c'est une infestation des sols par des larves de hannetons. Là aussi, on ne l'a pas vu venir, c'est que cette méthode a favorisé les pontes de cet insecte qui adore le sable. Et malheureusement, nous sommes majoritairement sur des sables. Et donc, le fait d'avoir une forêt, entre guillemets, trop propre, eh bien, à favoriser la pullulation de cet insecte.
Des espèces invasives.
Donc, on avait à la fois des plants qui se faisaient consommer par le bas, en fait, donc par le sol, et puis en même temps, ils se prenaient des vagues de chaleur dès 2015, assez phénoménales. De là, on s'est dit, il faut qu'on revoie notre copie. Peut-être que ce n'est plus les bonnes façons de faire. Et en même temps, effectivement, on s'est heurté à un dépérissement aussi des arbres adultes, et en particulier eh bien, les chênes, qui sont très importants dans cette forêt. Hein. C'est une chênaie avec beaucoup de tilleuls et d'autres espèces, mais principalement une chênaie. Et dans le modèle tel que le duc d'Aumale nous l'a légué, eh bien, la coupe de ces chênes était censée financer à la fois la reconstitution de la forêt et l'entretien du château et des collections. Voilà. Donc là, on se heurte
à un
vrai problème technique et économique, mais aussi écologique.
Et sur la composition de la forêt, donc vous disiez qu'elle était composée majoritairement de chênes. Quels sont les autres arbres qui la composent? Vous parliez de tilleuls aussi à l'instant.
Oui, alors il y a énormément de tilleuls. Hein. Il a été favorisé là aussi par les usages humains. C'est une forêt créée par l'homme. Hein. Même si elle a 800 ans, ça fait 800 ans qu'on l'homme la travaille. Donc on a favorisé le tilleul pour faire de la charbonnette, du bois de chauffage, qui était livré d'ailleurs sur Paris, pour les fourneaux, des choses comme ça, enfin voilà, la vie quotidienne. Les chênes étaient utilisés, prévus pour le bois de la marine, et il y a ensuite eu l'avènement du charbon. Donc tout ça a vraiment favorisé le tilleul, mais surtout le charme, le chêne et un petit peu de hêtre aussi.
Et toutes ces espèces d'arbres, finalement, s'adaptent assez mal au changement climatique, on peut dire ça comme
totalement. Ça. Totalement. L'autre travers, eh bien, c'est que malheureusement, cette forêt, elle est assez homogène dans sa structure, sur à peu près 4000 hectares. Là. On a de ces arbres hérités du Moyen-Âge et de temps un peu plus récents. Mais on a des structures très homogènes. Donc malheureusement, avec des arbres à peu près du même âge, quand ça commence à peiner, ça peine un peu partout en même temps.
Et enfin, j'imagine que enfin, chaque espèce d'arbre a des besoins, d'exigences enfin, très précises en température, en pluie. Ils sont
très
dépendants
du climat. Chaque espèce a un besoin très précis. En fait, on appelle ça une station. C'est l'adéquation entre le climat local, la météo, enfin voilà, les conditions climatiques locales et la nature du sol. Et chaque espèce d'arbre, effectivement, a des besoins très précis en température. Il y a des plages de température au-delà desquelles on sait qu'ils n'iront pas. On les a jamais observés dans ces en fait, on les a jamais observés dans ces conditions-là sur un sol donné, parce que la nature du sol va l'influencer à deux titres, au niveau de sa composition chimique et donc de son alimentation. Parfois, il y a des choses dans le sol, comme le calcium, qui peut être un véritable poison pour certaines espèces d'arbres, comme le pin sylvestre, par exemple. Donc ça joue beaucoup. Et puis, l'autre aspect, c'est la réserve utile, c'est-à-dire la capacité du sol à stocker de l'eau dans le temps. Donc, c'est un petit peu comme une gourde pour l'arbre. Lui, il va aller chercher l'eau disponible dans ce sol en fonction de ses besoins. Ce qui est très important de comprendre dans la vie d'un arbre, c'est que lui, en fait, il vit de l'eau qui le traverse. Un arbre, c'est pas comme nous, il va pas boire. enfin, il répond aussi à des besoins physiologiques, mais c'est le fait d'être traversé de l'eau par l'eau qui est contenue dans le sol vers l'atmosphère et qui est ce cycle, c'est vraiment ce qui lui permet de vivre. C'est un petit peu l'équivalent du sang qui nous traverse. Et lui, en fait, il va aller chercher ce dont il a besoin pour se nourrir dans cette eau qu'il traverse. C'est ce qu'on appelle la sève. Et cette eau, en fait, elle circule du sol vers l'atmosphère par un effet bassement mécanique. Plus l'air est sec et chaud, et plus l'eau contenue dans le sol le traverse et ressort par des petits trous qu'il a sur ses feuilles, qu'on appelle les stomates. Et c'est comme ça que la sève monte et qu'il se nourrit. Et le drame, c'est que plus l'air est chaud et sec, plus il pompe dans la réserve du sol, et plus il a besoin d'eau. Donc c'est ça le drame dans l'histoire, et ce qu'il va falloir qu'on maîtrise, c'est ce besoin en eau, de le tempérer, de l'aider à le tempérer.
Voilà. Il a besoin, un arbre, alors j'imagine que ça dépend des espèces, mais a besoin à peu près de combien de litres d'eau?
Alors c'est énorme, c'est plusieurs centaines de litres d'eau qu'il traverse par jour.
Par arbre,
ouais,
pour chaque arbre.
Par arbre, ouais. Donc, il y a des calculs hein, qui existent pour ça. Souvent, nous, on nous parlait de pluviométrie. Dans le métier, on se dit, il pleut Voilà, il pleut tant de 700 mm, oh bah ça va, on est dans des bonnes conditions climatiques. Les forestiers de demain, ils vont vraiment devoir réfléchir en évapotranspiration potentielle, on appelle ça, c'est-à-dire ce dont je vous parlais, de bien connaître l'équilibre entre leur sol et le climat et de mettre les espèces qui collent bien avec ça. Et ça, c'est un peu nouveau pour les praticiens.
Ouais. Est-ce que vous disposez de données qui remontent dans le temps, d'un avant à après, qui vous permettent de mesurer précisément la dégradation ?
Alors oui, notre forêt bénéficie depuis la mort du duc d'Aumale du régime forestier. Et donc l'administration forestière, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'Office national des forêts.
Vous avez travaillé
On travaille quotidiennement avec eux, puisqu'on bénéficie de ce statut de protection qui est très fort. Eh bien, eux, effectivement, ils ont beaucoup, ils nous suivent régulièrement. Tous les 15 ans, en moyenne, on recheckait sur les forêts ce qu'il se passait. Et la gestion forestière est très réglementée. Vous ne pouvez pas couper un arbre sans en avoir les autorisations. Et pour ça, vous devez montrer patte blanche. Il faut montrer que vous avez une gestion durable. Vous ne faites pas que prendre l'argent issu des récoltes. Vous le réinvestissez dans votre forêt. Et ça, c'est bordé par un plan d'aménagement forestier. Et ça, ça existe depuis toujours. Donc, on a les archives de tout ça. Et ce qui est un peu innovant aujourd'hui, c'est qu'on travaille avec l'Office national des forêts à l'élaboration, malheureusement, d'un plan d'aménagement de crise, puisque la quantité d'arbres dépérissants a atteint un tel niveau, c'est-à-dire c'est plus la moitié de nos arbres, dont un tiers très, très grièvement atteint. Eh bien, ce plan d'aménagement de crise sera sur 10 ans, révisable à 5 ans. Et là, on est en train de basculer aussi dans un autre mode de sylviculture, dont on pourra parler après. Mais oui, on a des archives qui nous permettent de savoir, même au château, que par exemple, on n'a jamais eu autant de bois sur la surface de la forêt que l'on en a aujourd'hui. Et si je reviens sur mon histoire d'évapotranspiration potentielle, ça veut dire que j'ai plus de sujets qui boivent, qui transpirent.
Il faut plus d'eau. Ouais.
Sur un sol qui ne contient pas vraiment beaucoup d'eau. Donc ça, on commence à avoir des données chiffrées là-dessus. Les scientifiques sont en train de comparer justement le capital qui était en place au Moyen-Âge, par exemple, par rapport à celui d'aujourd'hui. Eux me disent, bah, il n'y a jamais eu autant d'arbres.
Ce qui est pas
ce qui est contre-intuitif, oui.
Il y a une autre conséquence négative de ce réchauffement climatique, c'est vraiment un cercle vicieux qui s'entretient, puisque la disparition des arbres entraîne mécaniquement une plus grande exposition des sols au soleil, ce qui pose problème.
Oui. Alors la disparition des arbres, c'est une catastrophe à double titre, c'est-à-dire que les choses vont trop vite. S'il y avait eu un réchauffement sur une échelle de temps géologique, comme ça a été le cas avant, si ça s'était réparti sur 1000, 2000 ans, on aurait eu des arbres qui auraient migré du sud vers le nord et tout irait bien. C'est-à-dire que la nature aurait fait son travail de sélection et elle aurait gardé progressivement. Il y en a qui auraient pris le dessus sur d'autres, puis auraient progressé. Leur répartition naturelle aurait progressé vers le nord. Le problème, c'est que là, le réchauffement, on se le prend...
Ça va beaucoup trop vite.
Beaucoup trop vite, on se le prend en 40 ans, c'était pas prévu. C'est pas les rythmes de la nature. Donc, effectivement, on est obligé de réfléchir. Comment reconstituer en 40, 50 ans, en tout cas se donner les chances d'avoir encore une forêt vivante dans 50 ans pour les générations futures. C'est vraiment là le challenge pour nous. Et donc, nous, on a décidé de basculer vers une nouvelle sylviculture où on arrête complètement ces coupes à blanc, parce que ça ne marche plus. Ça a eu de beaux résultats, mais on arrête. En plus, ça coûte cher pour des résultats devenus... assez aléatoire, malheureusement, du fait du climat sur les sols de Chantilly, je précise, parce qu'on a des sols ingrats, c'est pas valable partout, je précise. Donc là, l'idée, c'est d'essayer, les forestiers vont essayer sur plus de 4000 hectares.
D'accord. Donc la majorité de la surface,
sur cette surface-là, ils vont faire deux choses. Ils vont essayer de garder effectivement le sol à l'abri des morsures du soleil, mais vont quand même laisser la lumière pénétrer, mais de façon tamisée. Comment ils vont faire ? Ils vont laisser la forêt s'encombrer de végétation. Donc, ils vont doser progressivement la lumière, retirer certains sujets qui ne sont pas utiles pour cette ambiance générale. Et l'idée, c'est de laisser justement le sous-bois se développer. Et il y aura plusieurs intérêts à cela. Déjà, il y a les arbres adultes qui tiennent encore le coup, on les garde. On ne raisonne plus par surface, un arbre est mature, je le coupe. Non, il est vivant, il n'est pas encore attaqué par les insectes, je le garde. Pourquoi ? Parce qu'il est susceptible quand même d'être un semencier. Et il résiste, il tient le coup. Et dans le même temps, dans les clairières qui vont se créer du fait du dépérissement, on va introduire différentes espèces d'arbres. Et pas seulement des espèces différentes. Par exemple, je prends le chêne pubescent, mais on va aussi réfléchir à introduire des provenances différentes. C'est-à-dire, on va se dire, tiens, peut-être que dans 50 ans, on aura plus le climat d'Albi, ou plus le climat de Barcelone, ou plus le climat tout simplement de Bourgogne. Voilà, on va essayer de mettre un petit peu différentes provenances, et la nature va faire le tri. Et on espère qu'à terme, un arbre, en gros, vers 30-40 ans, il est sexuellement mature.
D'accord.
Donc on espère que ceux qui ont survécu avec ceux qu'on a introduits, eh bien, ça va se croiser. Et puis, on verra bien ce qui va en rester. Et le fait de laisser la forêt s'encombrer, eh bien, nous, on se dit que ça va aussi faire une barrière physique aux femelles hannetons.
Les espèces invasives.
Les fameuses espèces invasives du sol. Elles sont un peu pataudes, donc j'espère qu'elles n'arriveront pas à accéder au sol pour aller pondre quand on a des grands envols à peu près tous les 4 ans. Voilà, c'est un petit peu le pari.
Vous parlez d'échelles de temps qui sont quand même relativement longues. Vous parliez de 30 à 40 ans. Il y a aujourd'hui encore une grande incertitude. Il faut respecter ce temps de croissance des arbres. Vous ne pouvez pas décréter en 2 jours qu'une solution non. va marcher. Vous êtes contraint par ce temps qui est très long.
Exactement. Alors 40 ans pour un arbre, ce n'est pas long du tout. À 40 ans, c'est un jeune adulte. Hein. dans une vie humaine, je ne sais pas, il aurait 18 ans. Donc, il est en pleine force de l'âge. Mais pour l'homme, qui est devenu très impatient, le temps de l'arbre, le temps de la géologie, c'est plus celui de l'homme. Et les gens, cette désynchronisation, ils ont un peu du mal à l'intégrer. Et c'est pour ça aussi qu'il faut rester très, très humble et qu'on met en place un système de suivi de la forêt, à la fois pour suivre son état de santé de manière un peu plus fine. Donc, par exemple, on est en train de recenser tous nos gros bois, nos vieux pépères, là. À la fois pour des raisons économiques, tout simplement, mais aussi pour connaître leur rôle de semencier. Et l'idée, c'est d'aller les chercher uniquement quand ils sont en train de mourir. Voilà, donc, quand on sait qu'ils sont vraiment condamnés. Parce que malheureusement, en l'espace de 2 ans, il passe d'une valeur commerciale, un des principaux débouchés, c'est le merin, les tonneaux, ou alors du sciage, parce que voilà, on s'ameuble, on construit des menuiseries, des choses comme ça, on a besoin de bois, de très grande qualité, et c'est ça qui vraiment fait le prix du bois. Et aujourd'hui, eh bien, quand les insectes attaquent ces arbres affaiblis, eh bien, ils creusent des galeries, il y a des trous dedans, et là, le prix est divisé par 2, voire par 10. Donc, on essaye d'étaler les recettes, on essaye de ne plus violenter cette forêt, entre guillemets, on la sait fragiliser, on respecte ça, et l'idée, c'est d'aller faire de la cueillette dispersée sur 4000 hectares de bois dépérissant, et non plus... Je prends 10 hectares et je sais que là, je passe de manière standardisée. Je prends tout ce qu'il y a à prendre pour l'industrie et je reviendrai dans 15 ans, 20 ans. Là, on essaye plus de faire de la cueillette.
C'est un travail beaucoup plus fin, en fait, ouais. Qui est mis en place.
Oui.
Alors, le réchauffement climatique résulte indéniablement des actions humaines, mais paradoxalement, la forêt de Chantilly ne pourra pas survivre sans leur intervention. Le sauvetage de Chantilly, c'est une affaire citoyenne.
Complètement. Alors, c'est les grands débats, la forêt, hein, parce que, comme je vous expliquais, elle a quand même un statut particulier, cette forêt. Elle est à la fois privée, c'est une propriété privée hein, de l'Institut de France, mais elle profite à tous. Donc, j'ai envie de dire que c'est les forêts en général. Et donc, à l'époque, quand on a commencé à prendre la mesure de ce qui se passait dans cette forêt, on s'est dit, mais les gens vont voir un chamboulement. On était à une époque un peu de défiance, c'est-à-dire on n'avait plus trop confiance en les sachants, ni en leur expertise. Nous-mêmes, en tant que sachants, on n'était plus très fiers de nous, plus très sûrs, parce qu'on se dit « mince, qu'est-ce qui se passe ?»
Oui, tout a été remis en cause.
Et on s'est dit « là, faut qu'on partage ». Faut pas tomber dans la psychose. Il se passe un truc, on va essayer de comprendre tous ensemble. Et donc, on a proposé aux habitants de se joindre à nous. On a monté un programme scientifique sur quelques années. Et on a dit aux gens, allez, venez avec nous. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est le collectif Ensemble Sauvons la Forêt de Chantilly. Voilà, donc on s'est lancé dans l'aventure en 2018.
Pour ne braquer personne et pour en faire une aventure
c'est surtout,
vraiment collective.
C'est anxiogène, je trouve tout ça. Enfin voilà, moi la première, quand je vois... Je trouve que l'arbre, c'est l'être vivant le plus beau au monde. Enfin voilà, j'en avais fait mon métier. Ils sont fascinants. Et puis ils embarquent tellement de choses. Niveau sociétal, déjà on croise des tas de gens différents animés par des tas de passions. Au niveau de la biodiversité, c'est juste incroyable. Enfin voilà, c'est la maison des êtres vivants, l'arbre. Donc les voir disparaître, je me suis dit, mais c'est comme voir une bibliothèque brûlée. Mince, qu'est-ce que je peux mettre en place pour limiter la casse? Et là, il ne fallait pas qu'on perde de temps face à cette urgence à avoir des grands débats philosophiques. Tu travailles bien, tu ne travailles pas bien. Ben non, en fait, il y a urgence. Il faut qu'on se pose tous et qu'on réfléchisse sur ce qu'il convient de faire. Et ça, c'est la responsabilité de tout le monde, en fait. Ce n'est pas que celle du propriétaire.
Bien sûr. Avec une méthodologie qui tâtonne un peu, en fait, ce collectif, Ensemble oui. Sauvons Chantilly, ouais. c'est avant tout un dispositif expérimental. Vous testez, vous
c'est
osez,
ça.
Vous regardez ce qui marche.
Chose, exactement. Humilité.
Ouais.
Humilité. On ne sait pas comment le climat va évoluer. Il va y avoir des à-coups dans un sens, dans l'autre. Et donc, l'idée, c'est d'être par contre transparent. Donc, comment être transparent ? Eh bien, c'est en rendant compte publiquement des actions qu'on mène sur le terrain, mais aussi de leurs résultats. Voilà, il y aura des choses positives de fait. Puis, des fois, on va faire des bêtises.
Oui.
Et on ne l'a pas fait méchamment. Mmh. Ce n'est pas pour prendre tout l'argent et partir avec. Tout est réinvesti en local. Donc, l'idée, c'est ça. Et donc, de rendre le citoyen acteur.
Le grand public peut participer concrètement. Comment il peut s'impliquer?
Bien sûr. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'autour de ce programme scientifique, il y a des protocoles qui étaient mis en place. Et on faisait un petit appel au peuple. On avait besoin de main-d'œuvre. Donc, les gens ont accordé des milliers de jours de collecte de données aux chercheurs. Ça leur a fait gagner, je pense, facilement 10 ans. Parce que ce qui est long en forêt, c'est les déplacements. C'est pas facile de se déplacer en forêt. Et par exemple, je vous donne une anecdote qui a été quand même un vrai challenge. Je pense que c'est le seul endroit au monde où ça a été fait. Grâce aux bénévoles, on a pu faire des prélèvements de sol tous les 70 mètres. Donc les chercheurs
c'est
ont
très
ça.
Très précis.
C'est vrai. C'est 13 000 points de sondage tous les 70 mètres. 24 000 échantillons qui sont en cours d'analyse dans les laboratoires de l'INRAE. Je ne doute pas qu'ils vont découvrir des tas de choses passionnantes. Il y a des microbiologistes qui travaillent dessus, des chimistes, des voilà. Et donc, nous, on se dit, faire de cette forêt un petit cas d'école, c'est super. Un état zéro aussi. Et je pense que les scientifiques, peut-être dans 15-20 ans, nous remercieront d'avoir pris toutes ces données. Les générations futures, je pense qu'elles seront contentes. Parce qu'ils vont pouvoir suivre dans le temps l'évolution de certaines caractéristiques. On a étudié la végétation, on a pris des données sur les arbres eux-mêmes, leur génétique. Voilà, on a fait des tas de choses, des insectes aussi, des captures. C'est notre façon de participer, voilà, d'aider la science.
Tout à l'heure, on parlait de la contrainte du temps long. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire quelles solutions mises en place ont fait le mieux leurs preuves ? Qu'est-ce qui marche ?
Là, ce dont on se rend compte, c'est plutôt ce qui ne marche pas,
ouais.
Comme je disais.
Il faut passer par ça.
Ce qui ne marche pas, c'est de planter sur des espaces trop nets. Ça, on arrête. Ce qui ne marche pas, c'est de planter la même chose partout. Du coup, on essaie de planter de manière plus diversifiée.
Ouais, des nouvelles essences.
Les nouvelles essences, c'est très important.
Qui viennent du sud, de la France, un peu tout.
Il faut tout essayer, moi, je crois. Et suivre, c'est surtout voilà, suivre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis j'espère qu'on saura dire aussi pourquoi ça n'a pas marché.
Ouais.
Et aussi, ce qu'on sait, c'est qu'un sol mis à nu, en tout cas chez nous, les microbes du sol, qui sont quand même la force vitale de l'écosystème, hein, c'est eux qui alimentent l'arbre, ils n'apprécient pas du tout. Et donc, quand on a vu les surfaces mises à nu ne pas réussir à se recouvrir, là, on s'est dit, il faut qu'on arrête les bêtises, parce qu'il ne faut pas les perdre. Il faut les garder vivants. Donc là, notre travail dans les années à venir, ça va être de protéger la vie dans ces sols, et d'introduire un maximum de biodiversité dans les arbres, mais pas que, grâce à cette sylviculture dont je vous parlais, de sylviculture à couvert continu et mélangé, on va étager. Donc on aura différentes catégories de plantes, on aura différentes catégories d'animaux. Et en fonction du climat, eh bien dans le lot, il y en a qui devraient réussir à mieux s'en sortir que d'autres.
Et d'autres qui vont mourir, et comme vous le disiez, c'est la nature qui fait le tri, quoi. On a beaucoup parlé en début d'année des feux de forêt qui ont ravagé la région de Los Angeles. Est-ce que Chantilly est aujourd'hui concerné par ces feux ou le climat le préserve ?
Oui, on l'est. Oui. D'ailleurs, même à Senlis, hein, nous avons une brigade de pompiers spécialisée dans la défense des forêts contre les incendies. L'Office national des forêts prend le sujet très au sérieux. Hein. Sur Internet, vous pouvez regarder, il y a maintenant des sites dédiés hein, sur les risques d'incendie. Il y a quelques années, on n'avait plus le droit d'aller en forêt. Pour éviter tout départ, on a une forêt très sèche, en fait. Donc, non, c'est un vrai sujet. Et dans les années à venir, peut-être qu'on va devoir même, comme dans le Sud, hein, faire des pare-feux sur des grandes surfaces. Je ne sais pas ce que nous demandera l'administration, mais c'est aussi pour ça qu'on souhaite ce mélange. La facilité serait de dire, on met du pain partout. C'est tellement... Mais le pain, pour nos sols, nos petits microbes, c'est pas super. Et en plus, on a des villes tout autour, des habitants. Et on a bien appris des Landes que d'avoir du pain qui brûle sur de l'eau, c'est très, très dangereux.
Pour les populations à côté, oui.
Donc ça, on a bien enregistré l'expérience, là, pour le coup.
Aujourd'hui, ce sera ma dernière question, qu'est-ce qui manque à Chantilly pour déployer correctement les dispositifs de sauvetage de la forêt ? Est-ce qu'il y a des freins particuliers, un manque de moyens ?
Oui, ça risque d'être les moyens.
Encore et toujours.
C'est pour ça qu'on essaie de basculer sur une... Alors, il faut savoir quand même qu'on est une toute petite équipe. Il y a 3 personnes dédiées à cette forêt, qui sont renforcées par 3 personnels de l'ONF, mais ils sont 6. Pour faire tout le travail. On a de nombreux partenaires locaux et heureusement, on a une formidable solidarité des collectivités. Hein. On a un parc naturel régional Ouest Pays de France qui est formidable là-dessus. Des régions, la région Hauts-de-France, enfin voilà, tout le monde se mobilise autour de nous, le département, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais c'est formidable, l'Europe. Mais voilà, dans le temps long, ça va être une autre histoire. Pour l'instant, on arrive à peu près à équilibrer l'économie de la forêt, c'est-à-dire ce qu'on gagne, c'est ce qu'elle nous coûte. Or, à la base, le duc d'Aumale nous l'avait légué à l'Institut de France pour faire gagner de l'argent. C'est plus trop ça. Donc, il va nous falloir trouver d'autres sources de revenus.
Ouais,
déjà, première chose. Hein, et puis,
vous avez des pistes, d'ailleurs ?
Oui, alors je pense que les choses vont beaucoup bouger parce que même dans le monde de l'entreprise, les consciences s'élèvent, on se rend compte que la nature, c'est un placement. C'est un placement parce que la forêt, au-delà de cela, hein, même pour les collectivités, c'est quand même ce qui filtre l'eau, c'est ce qui fixe le carbone. Si on perd toutes ces fonctions parce qu'aujourd'hui, on les estime entre guillemets gratuites, on va être bien embêté. Donc... pour les plantations, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises, de mécènes qui sont prêts à aider. L'État aussi nous a un petit peu aidés au travers du plan de relance. Mais à un moment donné, les recettes, on le sait, de bois vont s'effondrer. Et il va vraiment nous falloir trouver d'autres sources de revenus. Et ça risque d'arriver très vite, hein, moins de 15 ans. Et comme je vous disais... Le temps de la forêt,
à l'échelle d'un arbre, c'est rien du tout.
C'est pas grand-chose. Donc voilà, on travaille là-dessus avec les équipes et les partenaires. Il va falloir être inventif.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Daisy Coppo, pour ce témoignage. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, un sujet dont on n'aurait pas parlé, qui vous tenait à cœur?
Peut-être un dernier, l'équilibre grande faune-flore. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'encre qui coule sur un mot qui s'appelle la chasse.
Oui.
La chasse. Juste, je voudrais quand même souligner que ce domaine, il a été aussi créé pour la chasse.
Et il y a beaucoup de chasseurs qui,
et il y a beaucoup de chasseurs qui nous aident. Ils n'osent plus le dire, qu'ils sont chasseurs des fois, mais c'est une population qui est très active sur le domaine. C'est des gens formidables qui adorent la nature. Et voilà, on a besoin de tout le monde, en fait. Et les animaux, on travaille justement pour améliorer des denrées alimentaires au sein de la forêt, puis aussi leur tranquillité, parce qu'ils sont beaucoup dérangés. Mais il faut vraiment aussi accepter qu'à un moment donné, il faut réguler les choses pour le bien-être de la forêt et des animaux eux-mêmes, en fait. Voilà, donc on a besoin de cette activité.
Tout aide est bon à prendre. Et bien, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous participerez au colloque Nos forêts demain, organisé par l'Académie des sciences Chantilly et l'Institut. Il aura lieu le 21 mars et le samedi 22. Vous y serez, vous, la journée de samedi.
C'est ça.
Pour présenter toutes les initiatives entreprises par Chantilly. Et le programme est en ligne. Vous pouvez le retrouver sur notre site. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci, à très bientôt.
Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.